Santé d'Africa Radio, la prévention en partenariat avec Santé publique France.
Et bien sûr, en compagnie de Nadir Djennad avec nos invités, Justine Avenel-Roux, chargée d'expertise en marketing social et chef de projet Moi sans tabac, direction de la prévention, promotion de la santé chez Santé publique France. Merci de nous rejoindre. Il y a également le docteur Anno Marin qui nous rejoint d'Abidjan et puis le professeur Daniel Thomas, cardiologue, porte-parole de la Société francophone de tabacologie. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. La Covid-19 n'est pas la seule menace sanitaire. Le tabagisme reste toujours la première cause de mortalité évitable. Alors, avec environ 75 000 décès estimés en 2015 en France métropolitaine, pour Santé publique France, la pandémie de Covid-19 ne doit pas briser la dynamique qui a contribué à la baisse historique du tabagisme en France, avec près de 2 millions de fumeurs en moins entre 2014 et 2019. Il est donc capital que les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le tabagisme se poursuivent. Le seul moyen de se protéger est bien sûr l'arrêt du tabac. La 5e édition du Mois sans tabac va commencer dimanche 1er novembre. Le principe est le même, s'arrêter de fumer pendant le mois de novembre pour donner 5 fois plus de chances de stopper définitivement sa consommation. Nous parlons également du cas du continent africain qui compte 77 millions de fumeurs et l'OMS estime que d'ici à 2025, ces chiffres augmenteront de près de 40% par rapport à 2010. On en parle donc avec nos invités. Alors première question, Justine Avenel-Roux. En quoi l'opération Moi sans tabac peut-elle aider à arrêter de fumer ? Bonjour.
Bonjour. Vous l'avez dit dans votre introduction, arrêter de fumer pendant 30 jours, c'est multiplier par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Et pendant Moi sans tabac, il y a plein d'autres éléments qui peuvent aider. Il y a d'abord cet élan collectif. Quand on arrête ensemble, à plusieurs, on se soutient, on se sent soutenu, on s'entraide entre fumeurs, mais aussi avec ses proches qui peut-être sont non-fumeurs. Ça, c'est très important, cet élan collectif et ce soutien. Et il y a aussi toutes les aides qu'on met en place et dont on fait la promotion pendant Moi sans tabac. Tabac Info Service, c'est vraiment plein d'aides, c'est une ligne téléphonique, c'est une application, c'est un site internet et également le kit qui est vraiment emblématique de Moi sans tabac, où cette année on a mis un nouvel outil qui est le programme 40 jours.
C'est la 5e édition du Mois sans tabac. En cette période de pandémie de Covid-19, quels sont les objectifs pour vous, les objectifs premiers, les prioritaires de cette 5e édition?
Finalement, les objectifs, c'est un peu les mêmes que les années précédentes, c'est d'inciter un maximum de fumeurs à faire une tentative d'arrêt d'au moins 30 jours pendant le mois de novembre, si possible, et s'ils le souhaitent, ils s'en sentent capables, qu'ils poursuivent, qu'ils continuent à ne pas fumer après ces 30 jours. Mais finalement, le but reste le même, pandémie ou pas pandémie, c'est que les gens arrêtent de fumer.
Alors, comment faire pour participer à l'opération ?
Alors c'est très simple pour participer, on se connecte sur notre plateforme Moi sans tabac, on peut taper Moi sans tabac dans Google, normalement c'est le premier lien qui remonte et il suffit de cliquer sur Je participe, il y a quelques questions, le nom, le prénom, la date de naissance et là on est inscrit à Moi sans tabac et on peut bénéficier de plein d'aides et notamment du programme 40 jours qu'on peut recevoir aussi par mail.
Alors que propose Santé publique France pour accompagner au mieux les participants de cette 5e édition, alors sans événements et ni rencontres physique possible du fait de la situation sanitaire?
Alors c'est sûr que cette année on n'a pas pu organiser les villages Moi sans tabac qu'on avait les années précédentes, mais on a mis en place plusieurs autres outils. Déjà on a ajouté au kit d'aide à l'arrêt le programme 40 jours qui est en fait un programme pour quotidiennement, donc tous les jours, avoir un défi, un petit défi simple à réaliser, quelques conseils, quelques bénéfices, donc pour nous accompagner tout au long de l'arrêt, même si on peut pas se rendre dans des événements collectifs. Mais également on a plein d'aides qui existent, les outils Tabac Info Service. C'est un numéro de téléphone, le 3989, qui permet un accompagnement gratuit par des professionnels de santé, des tabacologues. Donc ça, c'est très efficace, ça marche très bien. Et puis toujours l'application Tabac Info Service et le site tabacinfoservice.fr.
D'accord.
Alors professeur Daniel Thomas, est-ce que selon vous, arrêter de fumer pendant un mois peut s'avérer efficace pour un arrêt définitif ? Bonjour.
Alors comme ça a été déjà rappelé là tout à l'heure, arrêter pendant un mois, ça multiplie beaucoup les chances de réussite. Environ 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement si on a un arrêt prolongé au moins d'un mois. Alors ce que l'on sait tous, c'est que les fumeurs ont souvent plusieurs tentatives d'arrêt avant d'arrêter définitivement. Là, ça amplifie, si vous voulez, la possibilité d'arrêt et donc ça multiplie les chances de réussir. Je pense que et ça s'est démontré depuis qu'il y a moins sans tabac. Chaque fois, les fumeurs disent que, et on a rappelé l'accompagnement qui préside à cette opération moins sans tabac et qui est un élément porteur également pour réussir plus que de faire tout seul. Je pense qu'on peut encourager tout le monde, tous les fumeurs qui ont envie d'arrêter de fumer, à s'inscrire et à participer à ce moins sans tabac.
C'est-à-dire que tout arrêt, même court, est positif, en fait, pour
tout
sa
à fait.
Santé.
C'est-à-dire que chaque fumeur qui a déjà arrêté, même peu de temps, a plus de chances dans l'avenir d'arrêter. Et plus d'arrêter de fois, et plus, si vous voulez, les chances d'arrêter. Mais là, la particularité, et on a insisté tout à l'heure dessus, c'est le côté collectif de la démarche, et qui va porter le fumeur, qui, sinon, quand il arrête tout seul, effectivement, trouve des obstacles qui font qu'il va rechuter, reprendre son tabagisme. Donc là, on est dans une situation bien particulière et qui est beaucoup plus favorable pour arrêter. Et donc, il faut saisir cette occasion.
Professeur Daniel Thomas, est-ce que vous vous êtes aperçu que les grands consommateurs, ce qu'on appelle les grands fumeurs, ont plus de difficultés à s'arrêter de fumer pendant un mois lors de l'opération « Mois sans tabac » ?
Oui, bien sûr. Généralement, les grands fumeurs sont des fumeurs qui sont, en général, beaucoup plus dépendants que les petits fumeurs, les fumeurs intermittents, qui doivent également arrêter parce qu'il n'y a pas de petit tabagisme. Oui, bien sûr, ils ont plus de difficultés. C'est donc pour cela également qu'il est d'autant plus important de saisir cette occasion et de participer. Ils seront d'autant plus aidés dans leur démarche. On en reparlera tout à l'heure, mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent également à demander une aide plus spécifique s'ils sont plus en difficulté que les autres par leur grand tabagisme ou leur grande dépendance.
Alors, nous allons en Côte d'Ivoire retrouver le docteur Anno Marin. Docteur, bonjour.
Bonjour Nadir.
Bonjour docteur. Est-ce qu'il existe en Côte d'Ivoire des opérations de sensibilisation de ce genre pour inciter les populations à arrêter de fumer ?
Effectivement, en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du tabac, c'est de 14 à 22%, avec une population qui varie de 8 à 22 ans et une consommation qui entraîne environ 5 000 morts. Alors, le gouvernement a mis en place un programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcool et les autres addictions qui est dirigé par un médecin, dont la mission essentielle, c'est de prévenir, sensibiliser les fumeurs et les amener à arrêter le tabac.
Alors, docteur Anno Marin, est-ce que vous constatez que depuis plusieurs années, la cigarette est entrée dans les mœurs et la vie quotidienne des Ivoiriens ?
Effectivement, depuis plusieurs années, depuis les années 60, la cigarette, c'est-à-dire le tabac, est fumée sous plusieurs formes en Côte d'Ivoire. D'abord, en zone rurale, c'est les feuilles fraîches de tabac qui sont utilisées par les planteurs. La Côte d'Ivoire étant un pays agro-industriel, ce tabac constitue un stimulant. Et en même temps, ces feuilles-là sont séchées, pilées, et elles sont consommées en sublingual. Donc, en zone rurale, c'est les populations adultes, les travailleurs qui en consomment. En zone urbaine, c'est un phénomène de mode, c'est la jeunesse scolarisée. Dans la couche la plus aisée aujourd'hui, on découvre des clubs cigares qui sont développés un peu partout. Et il y a aussi des clubs agilés, c'est ça, d'origine maghrébine. Donc, on découvre de plus en plus des personnes qui fument en Côte d'Ivoire.
Oui. Et on estime aujourd'hui à 77 millions le nombre de fumeurs en Afrique et l'OMS prévoit que d'ici à 2025, ces chiffres augmenteront de près de 40% par rapport à 2010, soit la plus forte augmentation observée à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pensez que les autorités sont sensibilisées à cette augmentation très forte du nombre de fumeurs sur le continent et en particulier en Côte d'Ivoire ?
Oui, effectivement, les autorités sont sensibilisées. Il y a des mesures législatives qui sont prises, il y a les mesures de taxation du tabac. Mais sachez que dans cette chaîne, il y a les industriels du tabac qui sont très subtils. Aujourd'hui, à travers des campagnes de publicité, de parrainage, de promotion de certaines activités sur la population. Et ces industries-là se détournent des pays développés où il y a beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de contrôle pour venir vers les nôtres et où il y a un peu assez de compromissions.
Et donc, vous expliquez cette augmentation par cette campagne de marketing massif des industries du tabac. On voit partout des affiches, par exemple, à Abidjan, incitant les populations à fumer.
Ah oui, il y a même ce qu'on appellerait un phénomène de marketing alternatif qui, aujourd'hui, au niveau de ces entreprises-là, au niveau de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, organise des campagnes au niveau de l'éducation nationale par la fourniture du matériel scolaire aux populations, des bourses d'étudiants aux étudiants, au niveau de la santé, des campagnes de sensibilisation et de prévention sur, par exemple, le paludisme, le VIH-Sida, au niveau de l'environnement sur la reforestation, au niveau social sur l'adduction d'eau potable et l'autonomisation des populations, des couches les plus défavorisées, et même au niveau du sport, par des campagnes de sensibilisation sur des activités sportives telles l'athlétisme. Donc vous voyez qu'il y a une manière de tourner, hein, de pouvoir apporter son apport, mais tout en essayant de s'implanter. C'est ce que l'on appelle le marketing alternatif.
Qu'en est-il de la consommation des plus jeunes? Et est-ce que, comme en Europe ou en France particulièrement, les femmes fument presque autant que les hommes en Côte d'Ivoire et en Afrique?
Ah non, la prévalence est marquée envers les hommes tout âge confondu. Les femmes fument moins. C'est surtout en milieu urbain qu'on retrouve des femmes qui fument la cigarette. Mais par contre, la consommation du tabac séché et pilé, en zone rurale, il y a des chiffres qui sont sensiblement égaux.
Professeur Daniel Thomas, quels sont aujourd'hui les traitements efficaces pour arrêter de fumer?
Alors, ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est qu'il n'y a pas de traitement miracle, univoque, qui s'adapte à tous les fumeurs. Je crois que c'est très important à souligner, parce que c'est ce que recherche souvent le fumeur en disant, mais finalement, est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui pourrait être radical pour moi, pour me faire arrêter de fumer? Donc, il n'y a pas de traitement miracle. La première chose, et je pense que c'est très important, c'est que le fumeur se mette dans une situation de motivation à arrêter de fumer. Parce que il y a toujours une ambivalence. Le fumeur, il fume, voudra arrêter de fumer, mais il ne veut pas trop quitter sa cigarette. Je veux dire que cette ambivalence vient de peut-être travailler, et en l'occurrence, la motivation à arrêter doit être elle-même travaillée. Alors, elle peut se travailler toute seule, bien sûr. Par contre, le mois sans tabac est une occasion de trouver des éléments de motivation qui vont être formulés dans cette campagne et dans ce mois sans tabac. Et donc, essayez de trouver ce qui vous convient, vous, le plus comme élément de motivation. Parce que c'est l'élément de motivation individuelle qui va être le plus performant pour vous inciter à arrêter, pour vous maintenir dans l'arrêt. Ça, c'est le préambule absent avant de parler de tout traitement, à proprement parler. Oui. Cela étant, je pense qu'il faut également ne pas hésiter à engager des traitements, à proprement parler. C'est-à-dire des traitements, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des aides qui vont vous aider à arrêter sans souffrir, sans être dans une situation de manque. Et donc ces traitements, on les connaît bien, il y en a qui sont validés, qui sont recommandés d'ailleurs par les autorités de santé. Ce sont de la substitution nicotinique et ce sont deux médicaments qui sont prescrits par voie orale, la varenicline et le bupropion, qui peuvent être prescrits par les médecins, qui ne sont pas à disposition directe. Et la substitution nicotinique est le phare effectivement de ces traitements quand même, pour le moment encore, en première intention. Les autres étant plutôt en deuxième intention, en particulier pour la varenicline, mais qu'il faut également ne pas hésiter à utiliser pour les médecins qui sont en charge des fumeurs. Donc voilà, ce sont les traitements. Et puis il y a ce qu'on appelle les techniques cognitivo-comportementales, c'est-à-dire c'est une approche personnalisée des conditions dans lesquelles le fumeur fume, de lui faire prendre conscience de ces situations, de les traiter en tant que telles, c'est-à-dire de traiter les comportements. Car il y a des fumeurs qui ne sont pas dépendants physiquement, qui ont essentiellement un aspect comportemental dans leur tabagisme, et ces techniques sont particulièrement utiles. Voilà les principaux traitements, mais en sachant encore une fois qu'il faut au départ que cette motivation soit parfaitement travaillée, et cela peut se faire également avec un tabacologue, avec son médecin, car les médecins généralistes sont en première ligne pour aider les fumeurs, et je crois qu'il faut qu'ils le fassent au quotidien.
C'est-à-dire que la volonté, celle dont on parle souvent...
Oui, alors je parlais plutôt de motivation, parce que la volonté, la plupart, vous savez qu'il y a 75% des fumeurs même dépendants qui veulent arrêter de fumer, donc ils ont la volonté en tant que telle, Par contre, pour arriver à mettre en œuvre cette volonté, il faut avoir un élément de motivation. Alors, ils sont multiples, hein, c'est des éléments financiers, le tabac coûte cher, c'est des éléments affectifs, le faire pour ses enfants, pour son conjoint. Donc, ce sont des éléments de motivation qu'il faut effectivement repérer. Et c'est ceux que le fumeur aura repéré et choisi qui sont les plus efficaces. C'est pas ceux que les médecins vont mettre en avant forcément. Il y a 17 cancers, mais alors, le cancer du poumon qui est le phare effectivement de ces maladies. Mais il ne faut pas oublier, elle est souvent méconnue, c'est que les maladies cardiovasculaires sont également très importantes. Ça représente à peu près 20% des décès, sont des décès cardiovasculaires liés au tabagisme. Et puis les maladies respiratoires non cancérologiques, hein, non cancer du poumon, qui sont la bronchopathie chronique qui mène à l'insuffisance respiratoire, donc tue également 10 à 15 000 personnes par an en France. Donc voilà, ça c'est les principales maladies liées au tabac. Et ça a été rappelé en préambule, oui. 75 000 décès en France par an, oui. C'est-à-dire 200 décès par jour.
Professeur Daniel Thomas, est-ce que les fumeurs ont plus de risques de développer des formes graves de Covid-19 que les non-fumeurs ?
Alors oui, alors c'est ce qui ressort. Alors ce qui est ressorti initialement, tout au début de la pandémie, c'est qu'on a constaté qu'il y avait plutôt moins de fumeurs parmi les gens qui avaient des diagnostics soit direct par PCR, soit de sérologie au Covid, et qu'il y avait moins de fumeurs. En fait, il y a beaucoup de biais dans ces études, potentiellement beaucoup de biais, qui fait que je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que il est de toute façon, il faut absolument pas miser sur un effet protecteur du tabac vis-à-vis de la Covid. Ça, c'est clair. Hein, et je pense qu'il y a eu des messages très contre-performant au départ, parlant d'un effet protecteur du tabac, ce qui ne peut absolument pas être retenu actuellement. En tout cas, c'est absolument pas démontré. Et puis, comme vous venez de le dire, ce qui est également important, c'est que ça augmente le risque de faire des formes graves. Oui. On parle en particulier environ par deux le risque de faire une forme de grave quand on est fumeur. Donc, il faut être vraiment très, très... C'est pour ça qu'il faut, dans cette période, et en particulier actuellement en période de confinement, s'occuper beaucoup des fumeurs et les aider à arrêter de fumer, c'est une priorité.
Justine Avenel-Roux, on évoque souvent la cigarette électronique qui est en plein développement. Est-ce que la cigarette électronique est un vrai moyen d'arrêter de fumer selon vous ?
Alors aujourd'hui, c'est un produit qui est récent sur le marché, donc on n'a pas assez d'études qui nous permettent de dire si oui ou non la cigarette électronique est une méthode efficace et surtout sans risque à long terme. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que ça peut être une aide pour les fumeurs qui se sentent l'envie d'essayer cette méthode-là. On estime que depuis que la cigarette électronique est sur le marché, il y a environ 700 000 fumeurs qui ont utilisé la cigarette électronique pour arrêter de fumer.
Alors, on va demander l'avis du docteur Anomarin à Abidjan. Docteur, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la cigarette électronique est en plein développement et est-elle un vrai moyen d'arrêter de fumer ?
Alors, effectivement, cette cigarette est en développement, mais au niveau d'une certaine classe. Alors, elle est beaucoup utilisée pour ceux qui ont une addiction. Donc, nous utilisons comme un mode de pouvoir les amener à arrêter de fumer. Lorsque nous apercevons qu'ils présentent des pathologies, des facteurs de risque assez importants liés au tabagisme.
Quels sont aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les traitements pour arrêter de fumer ?
Effectivement, nous avions des structures, nous avions des méthodes d'approche psychologique de sensibilisation. Comme le disait mon confrère tantôt, il n'y a pas de méthode standard. Tout est en fonction de l'individu, de ses facteurs de risque, de sa sensibilité, de ses connaissances sur les méfaits du tabac. Parce qu'il faut dire aussi qu'en Afrique, il y a cette méconnaissance des méfaits du tabac qui est assez importante au niveau de la population des fumeurs. Vu que cette population débute de 8 jusqu'à 22 ans et elle est très jeune. Et souvent, comme je vous le disais, en milieu rural, il y a l'analphabétisme qui impacte sur cette approche. Et il y a la volonté de pouvoir rentabiliser ses activités agricoles. C'est là une des difficultés pour pouvoir amener les gens à arrêter le tabac. Juste voir le côté bénéfique plutôt de consommation du tabac.
Justine Avenel-Roux, aujourd'hui sur ces mesures.
Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ce genre de mesures, ça aide vraiment à dénormaliser le tabac, à faire en sorte que le tabac soit plus aussi présent dans nos vies à tous, et y compris à la vie des non-fumeurs. Donc c'est des très bonnes mesures pour justement pousser, enfin inciter la population à sortir du tabac.
Ouais. On a parlé de marketing massif, hein, pour évoquer le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que, par exemple, mettre des photos de poumons très endommagés par le tabac sur les paquets de cigarettes aujourd'hui peut avoir un impact pour arrêter de fumer, selon vous ?
Alors, de la même manière, je pense que ça aide à dénormaliser le tabac, à faire en sorte que le tabac ait une image moins positive. C'est ça qui est intéressant dans ces mesures-là qui sont prises, et peut-être ça incite à moins entrer dans le tabagisme.
Alors, professeur Daniel Thomas, est-ce que toutes ces mesures, selon vous, ont contribué à la diminution du tabagisme en France ?
Alors, comme vient de dire Justine, je crois que la dénormalisation du tabac est un élément essentiel. Trop longtemps, on a considéré que le tabac était dans le paysage et qu'il n'y avait pas trop à s'en soucier. Il y avait une méconnaissance de ses méfaits par la population aussi. Maintenant, je pense qu'en France métropolitaine, je pense que tous les fumeurs savent que fumer est dangereux pour la santé, et gravement dangereux pour la santé, mais peut-être pas à un niveau suffisant. Et il faut, par ailleurs, essayer de faire en sorte que ce produit ne devienne plus un produit normal, un produit qui, bien que vendu à tous les coins de rue, fasse partie de la consommation normale du citoyen. Voilà. Donc ça fait partie, et donc plus on va mettre des freins effectivement à cette normalisation, et donc ça fait partie effectivement de ces interdictions, alors, malheureusement qui sont souvent vécues comme des interdictions privant de liberté, en fait qui font gagner de la liberté parce que ça peut aider à sortir du tabac, donc à se libérer, contribuent d'une certaine façon à dénormaliser l'image du tabac, ce qui est très important.
Docteur Thomas, est-ce que le prix des cigarettes peut être un frein à la consommation ? Le prix augmente tous les ans, pratiquement.
Aspect, en termes de santé publique, l'augmentation du prix du tabac, en l'occurrence sur les taxes, sont l'élément le plus efficace en termes de santé publique pour diminuer le nombre de fumeurs et la consommation de tabac. On en a d'ailleurs vu un exemple flagrant en France en 2003-2004, où Jacques Chirac, qui avait fait la guerre au tabac, comme il avait dit à l'époque, avait augmenté de 40% le prix du tabac en l'espace de 14 mois. Et ça a fait baisser de 25% les ventes. Et donc, avec une proportion finalement de fumeurs très importante qui avait arrêté de fumer à ce moment-là. Ensuite, il y a eu un moratoire, parce que les pluralistes ont considéré que c'était absolument inique de faire cela. Un moratoire de quelques années, si bien que la consommation a remonté. Et ensuite, on en a vu, là, ces dernières années, avec le paquet qui est passé d'environ 5 à 10 euros en l'espace de 4 ans, eh bien, une baisse qui a. Et cette augmentation de prix a contribué, avec toutes les autres mesures dont on vient de parler, à faire baisser le niveau de consommation et le nombre de fumeurs. Donc il ne faut pas hésiter. Alors, ce 10 euros, ce n'est pas un objectif définitif. Je pense qu'il ne faut peut-être pas s'arrêter là, parce qu'on sait que ça marche, condition qu'on augmente de façon importante et rapide. Et donc il faut continuer, et je pense que la démarche, c'est de ne pas rester effectivement à ce paquet à 10 euros. Et des pays comme l'Australie, où le paquet est pratiquement à 15, voire plus d'euros en termes par paquet, eh bien, on voit que c'est très efficace, ça continue à être très efficace. Donc il ne faut pas s'arrêter là, et je pense qu'il faut envisager des mesures encore d'augmentation du prix du tabac, qui est, je vous le rappelle, donc la meilleure mesure en termes de santé publique pour faire baisser le nombre de fumeurs.
On va demander l'avis du docteur Anno Marin concernant le prix des cigarettes en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce prix augmente aussi de manière régulière, et est-ce que, selon vous, l'augmentation du prix des cigarettes peut être un frein à la consommation ?
Effectivement, l'augmentation de ce prix peut être un frein à la consommation. Mais ici, généralement, les gens consomment la cigarette au détail. Ce qui veut dire qu'ils n'achètent pas le paquet, ils l'achètent individuellement. Et encore un autre souci, c'est que la cigarette est considérée comme un coupe-faim. Le fumeur préfère acheter une cigarette à bas prix, fumer cette cigarette à jeun, il n'aura pas faim que d'aller acheter de la nourriture. Donc vous voyez que dans un rapport comme dans un autre, on a des effets pour ceux qui fument de manière excessive. Mais par contre, les fumeurs occasionnels qui constituent le plus grand lot, ces impacts-là n'ont pas. Et même lorsque ils n'achètent pas le paquet de la cigarette, donc le poumon cancéreux sur l'étiquette, généralement passe inaperçu par cette population. Ils achètent au détail dans les tabliers et ils utilisent ça comme coupe-fin.
Alors, on va revenir au mois sans tabac, hein, si vous le voulez bien, pour donner les indications aux auditeurs qui veulent s'inscrire. Il n'est pas trop tard ?
Il n'est absolument pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même si vous avez loupé le 1er novembre, vous pouvez vous inscrire courant novembre sur la plateforme. Commencez votre mois sans tabac le 2, le 4, le 15, le 29 novembre. Ce n'est pas un souci, il n'est jamais trop tard. Et si votre mois sans tabac, vous voulez le faire en décembre, ça marche aussi. En tout cas, si vous voulez le faire avec nous, il faut s'inscrire sur la plateforme Mois sans tabac qui est disponible en ligne. Avec un clic, quelques informations, vous pouvez vous inscrire et bénéficier de toutes les aides qu'on vous propose.
Comment récupérer le kit ? C'est toujours en pharmacie, comme c'était le cas il y a quelques années ?
Exactement, on peut récupérer son kit en pharmacie. On a beaucoup de pharmacies en France, 18 000, qui sont équipées avec des kits. Et sinon, on peut le commander donc, depuis cette plateforme gratuitement et on le recevra à son domicile.
Docteur Daniel Thomas, le président français Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement. Est-ce que vous avez des craintes que le confinement peut amener des personnes à fumer de plus en plus ?
Alors on a quelques données, hein, je suis Justine pour en parler plus en détail, mais je veux dire que Santé publique France a fait une enquête lors du premier confinement et a montré que malheureusement, effectivement, il y a eu une augmentation, 27% des fumeurs qui ont augmenté leur consommation de l'ordre d'environ 5 cigarettes. Donc c'est effectivement une situation, disons, ambiguë. C'est-à-dire que ça peut inciter les gens à arrêter parce qu'ils sont peut-être moins dans un certain stress qui serait le stress professionnel, etc. Mais en même temps, il y a le stress lié à la pandémie, il y a le confinement, il y a le fait qu'ils vont en plus volontiers enfumer leur famille s'ils fument dans leur appartement. Donc, je veux dire, tous ces éléments-là sont des éléments, effectivement, plutôt négatifs. Je pense qu'il faut essayer de renverser la vapeur et essayer, au contraire, d'en faire un argument essentiel. On l'a rappelé tout à l'heure, même s'il y a moins de fumeurs parmi les sujets atteints, les fumeurs qui sont atteints sont beaucoup plus graves, deux fois plus graves que les non-fumeurs à partir du moment où ils sont malades. Donc, je crois que c'est une incitation très forte à faire une démarche d'arrêt du tabac, et le mois sans tabac est justement cette occasion, puisqu'on va se trouver lors de ce confinement, justement dans ce mois sans tabac. Donc je pense que c'est l'occasion, c'est un élément à la limite de motivation supplémentaire, même si c'est un élément plutôt santé, et on sait que les éléments de santé ne sont pas toujours les plus porteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais des éléments de motivation personnelle et plutôt positive vers quelque chose qui va être un plus plutôt que de craindre un moins. Je veux dire qu'il faut quand même s'en servir. Et je pense qu'il faut que les fumeurs prennent conscience que, un, étant fumeurs, ils sont plus à risque s'ils attrapent la maladie de faire une forme grave, que d'autre part, ils sont dans une situation où ils ont la possibilité, dans ce mois sans tabac, de trouver de l'aide, une aide collective qui peut être porteur pour eux pour aboutir à définitivement arrêter de fumer. Et puis, je voudrais rappeler également, c'est très important, parce qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure dans l'arrêt du tabac, c'est que l'objectif essentiel, c'est d'arrêter totalement de fumer. Je veux dire que beaucoup de fumeurs, on parle beaucoup de réduction de risque actuellement. La réduction de risque ne peut être atteinte que s'il y a un arrêt total à terme de tout tabagisme. Réduire sa consommation ne suffit pas, car les mécanismes, tant pour le cardiovasculaire que pour le cancer, sont des mécanismes extrêmement sensibles et qui, même pour une faible exposition, donnent des risques importants. Il n'y a pas de proportionnalité entre le niveau de consommation et le niveau de risque. Donc l'objectif à terme, c'est l'arrêt définitif. Alors il peut être progressif, il peut être justement accompagné effectivement par ces produits dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent être une substitution brutale, mais ça peut être une substitution progressive. Pour la cigarette électronique, c'est pareil, les vapoteurs, il faut leur donner ce message essentiel, c'est qu'il ne faut pas rester vapo-fumeur. Il y a 50% des vapoteurs qui continuent à fumer en même temps, ils ne se protègent pas. Il faut que ce vapotage soit un élément pour aboutir à l'arrêt du tabac, et une fois qu'ils ont totalement arrêté de façon stable de fumer, de pouvoir arrêter également la vape, parce qu'on ne connaît pas, comme c'était rappelé tout à l'heure, les effets à moyen et long terme, en particulier à long terme, et donc il ne faut pas rester vapoteur à vie, même si dans l'immédiat, pour arrêter de fumer, il vaut mieux vapoter que de rester fumeur.
Voilà. Merci à professeur Daniel Thomas, merci à tous les trois, merci à Justine Avenel Roux et merci au docteur Anno Marin. Merci d'avoir participé à cette émission préparée par Nadir Djennad. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre thématique. Merci beaucoup.